Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI, les 11h à Paris et 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Florent Guignard. Florent, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, les appels au cessez-le-feu à Goma se multiplient alors que les combats de ces derniers jours ont fait plus d'une centaine de morts. Dans ce journal, on s'arrêtera sur le sort d'un laboratoire menacé par les combats et d'où pourraient s'échapper des virus, dont Ebola. À la une également, au moins 15 morts lors d'une bousculade au grand pèlerinage hindou de Kumbh Mela en Inde. Et puis on parlera aussi de l'inquiétude des Kurdes face au nouveau passeport syrien. Dans 10 minutes, après ce journal, vous retrouverez 8 milliards de voisins. Un appel du pape François en faveur des civils de Goma. Le chef de l'église catholique s'est exprimé ce matin sur les combats dans l'est du Congo, Kinshasa, en exhortant toutes les parties au conflit à s'engager en faveur d'un cessez-le-feu pour la sauvegarde des populations. Appel à une solution pacifique alors que les combats à Goma ont fait en 3 jours plus d'une centaine de morts et plus d'un millier de blessés selon l'agence France Presse. Alors outre le sort des civils, il y a aussi une inquiétude exprimée ce matin sur RFI par le chef de la délégation de la Croix-Rouge internationale en République démocratique du Congo. La proximité des combats avec un laboratoire médical et un risque de dissémination de virus, dont le virus Ebola. On écoute François Morillon.
Cette mise en garde, nous avons décidé de la prendre sciemment et de manière publique afin de responsabiliser les acteurs qui se battent actuellement sur le terrain. Parce que si l'intégrité physique de ce lieu devait être endommagée ou si la chaîne de froid devait être interrompue, cela représenterait un danger potentiel qui irait bien au-delà des frontières de la RDC. D'ailleurs, ce matin, nous allons tenter de nous y rendre afin de s'assurer que le périmètre est sécurisé, qui n'est pas exposé au pillage. Ceci est une de nos principales inquiétudes, car les personnes susceptibles de rentrer dans ce site n'ont aucune connaissance du danger que cela peut représenter. Et également mettre un emblème de la Croix-Rouge sur le toit pour qu'il soit bien visible du ciel, afin qu'il ne puisse pas être confondu avec une cible militaire.
Oui. Le chef de la délégation de la Croix-Rouge internationale en République démocratique du Congo, François Morillon, au micro d'Arnaud Pontus, ce matin, sur RFI. Sur le plan diplomatique, le président du Rwanda, Paul Kagame, s'est entretenu cette nuit au téléphone avec le chef de la diplomatie des États-Unis qui a appelé à un cessez-le-feu. Un mot encore dans l'actualité africaine avec le départ officiel du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de la CDAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui ne compte plus désormais que 12 pays membres. Le plus grand pèlerinage hindou a tourné au drame en Inde, le pèlerinage de Kumbh Mela qui rassemble 100 millions de personnes. Pèlerinage qui n'a lieu que tous les 12 ans. Une bousculade a fait 15 morts au moins et de très nombreux blessés. Correspondance de Combastin.
Ce qui était redouté est finalement arrivé, alors que le bain dans le Gange était aujourd'hui particulièrement sacré. Dès l'aube, des millions de pèlerins s'y sont précipités, faisant tomber les barrières et corridors de sécurité. De nombreuses personnes sont mortes, piétinées ou noyées, et des dizaines ont été blessées, dont certaines grièvement. Le bilan définitif pourrait s'alourdir lourdement. Le rassemblement religieux de la Kumbh Mela s'est ouvert le 13 janvier et va encore durer un mois. Il est censé être le plus important. Pourtant, en 144 ans, le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi a voulu en faire un événement grandiose, prédisant 450 millions de visiteurs. Il a aussi déployé et dépensé beaucoup pour éviter les mouvements de foule meurtriers fréquents lors des festivals hindous. Les déplacements ont été complètement interrompus ce mercredi sur le site de la Kumbh Mela, alors que les victimes sont évacuées vers des hôpitaux. Le Premier ministre a offert ses condoléances aux victimes de la bousculade. Pendant que l'opposition critiquait sa gestion, certains appelant au déploiement de l'armée. Combastin, de retour de la Kumbh Mela, RFI.
En Asie et plus particulièrement en Chine, c'est aujourd'hui le nouvel an lunaire, placé cette année sous le signe du serpent qui succède au dragon. RFI, les 11h05 à Paris. La Russie apporte son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la Syrie. Communiqué du ministère russe des Affaires étrangères à l'occasion de la première visite à Damas d'une délégation russe. Pour la première fois donc depuis la chute de Bachar el-Assad que Moscou a a protégé pendant les longues années de la guerre civile. Le nouveau pouvoir à Damas, en début de semaine, a dévoilé le nouveau système d'attribution des passeports et cette annonce suscite l'inquiétude des Kurdes qu'ils vivent en Syrie ou en exil. Comment cette procédure sera-t-elle appliquée alors que la dictature Assad avait enlevé la citoyenneté syrienne aux Kurdes en faisant des milliers d'apatrides? Reportage de Lucas Lazo dans le camp de réfugiés de Kawergosk au Kurdistan irakien.
Il y a 10 ans, Mazloum quitte la Syrie en guerre pour l'Irak. Dans sa maison de briques, ce père de 4 filles exhume les quelques documents officiels qu'il possède, des papiers aux entêtes bleues des Nations Unies, mais aucune pièce officielle syrienne.
Nous sommes Syriens, mais le gouvernement refuse de le reconnaître.
En 1962, le régime baasiste retire leur nationalité à plus de 150 000 Kurdes. Une situation qui a rendu la vie de Mazloum impossible. Avant d'être un réfugié dans le pays voisin, il était un étranger dans le sien.
Après le diplôme, impossible de trouver du travail. Si tu possèdes une maison, tu ne peux pas l'enregistrer à ton nom. Mes propres enfants ne peuvent pas être enregistrés sous mon nom parce que je n'ai pas de livret de famille. Il y a tellement de choses dont on a été privé. Sans citoyenneté, tu ne peux rien faire.
Rien faire et encore moins voyager. Faute de registre, impossible d'estimer le nombre de personnes dans cette situation parmi les réfugiés kurdes syriens en Irak. Plusieurs centaines de familles, selon les associations. Et Mazloum doute que les nouvelles autorités prennent en charge leur situation.
Rien n'a changé en Syrie. Les administrations ne se sont pas remises à fonctionner, elles n'ont rien fait. Nous ne possédons pas la citoyenneté, il n'y a aucune preuve, aucun document officiel pour nous. Si nous rentrons, nous ne pourrons pas nous déplacer librement. Et si nous quittons les régions kurdes, nous pourrions être emprisonnés.
Des avocats lui réclament plusieurs milliers de dollars pour étudier son cas, inenvisageable pour Mazloum. Alors depuis que le régime est tombé, sa crainte, se retrouver seul dans le camp de réfugiés lorsque ses voisins rentreront en Syrie. Lucas Lazo, Erbil, RFI.
Donald Trump inspire certains dirigeants européens et notamment le Premier ministre slovaque Robert Fico qui veut modifier la Constitution pour empêcher la liberté de choisir son genre. Un coup de plus porté à la communauté LGBT, Carlotta Morteo.
Nous avons 2 sexes, masculin et féminin, définis à la naissance. Voilà ce qui est écrit dans la proposition gouvernementale d'amendement de la Constitution slovaque. Mot pour mot, c'est la formule déclamée par le président américain Donald Trump dans son discours d'investiture. Ce texte rendrait impossible le changement de genre en Slovaquie, ainsi que les thérapies de conversion. Le Premier ministre nationaliste s'est déjà attaqué lors de son précédent mandat au mariage homosexuel, interdit depuis 2014, quand la Constitution a été réécrite pour définir le mariage comme une union exclusive entre un homme et une femme. Depuis, les couples homosexuels ne peuvent plus adopter un enfant. Cette énième proposition anti-LGBT+ va être débattue pendant 1 mois. Elle stipule aussi que ce n'est pas le droit européen qui devrait primer sur ces questions considérées comme culturelles et éthiques, mais que c'est Bratislava qui devrait avoir le dernier mot. Un retournement des principes juridiques qui pourrait mettre la Slovaquie en infraction vis-à-vis des traités européens, comme l'ont été la Hongrie et la Pologne avant elle.
La très bonne santé de l'économie espagnole avec une croissance de 3,2% en 2024, alors que dans la zone euro, la croissance moyenne s'établit à seulement 0,8%. La politique sociale de Pedro Sanchez n'entrave pas l'économie. Le Premier ministre socialiste espagnol a d'ailleurs trouvé un accord avec les indépendantistes catalans pour faire adopter ces mesures, François Musso.
Hausse des retraites, augmentation des aides publiques dans les transports et spécialement à destination des populations les plus jeunes, aide aux milliers de personnes affectées par la terrible goutte froide de fin octobre qui avait dévasté la région de Valence et fait 224 morts, mesures pour protéger les propriétaires insolvables d'expulsions arbitraires, ce sont autant de mesures qui forment ce que l'on appelle ici le décret omnibus qui ont fait l'objet d'un accord entre le pouvoir socialiste et son très imprévisible allié catalan, les indépendantistes de Junts. Ce décret omnibus, c'est comme son nom l'indique, un ensemble de mesures concernant pratiquement tous les secteurs sociaux. Tout ce que le gouvernement souhaitait faire passer ne le sera pas, notamment une fiscalité plus restrictive pour les entreprises les plus prospères et les ménages les plus riches, mais dans l'ensemble, l'essentiel y est. Ce qui a provoqué le manifeste contentement de Pedro Sanchez. Un Pedro Sanchez qui sera certes soumis à un vote de confiance au Parlement, mais seulement de manière formelle, car dans la pratique, cela ne remettra pas en cause la poursuite de son 3e mandat. François Musso, Madrid, RFI.
RFI à Madrid et à Paris, les 11h10. Dans un instant, 8 milliards de voisins.